Alors pour débuter, j'ai juste un challenge qui m'a été lancé par des amis d'une église proche, c'est le CVC, parce que c'est leur premier culte de reprise aujourd'hui, et j'étais avec eux vendredi soir parce qu'ils ont changé toute leur installation sono. Et puis ils m'avaient dit, bon bah au cas où on t'appelle dimanche matin si ça marche pas, et je lui avais dit, bah c'est pas possible, tu pourras pas m'appeler parce que je serai sur la scène et je ne pourrai pas te répondre. Il dit, ah bon, mais tu seras même pas capable de nous saluer, tout ça. Bah, j'ai dit, si, je le ferai. Donc je salue toute l'église du CVC. Tim, tu peux dire à Ophélie pour qu'elle transmette à son père, à Vincent, à Ben, c'est fait. Je les ai salués, je les ai pas oubliés. Et puis on veut penser à cette église qui est amie et à leur reprise. Et on a vécu un chouette moment ensemble vendredi dans toutes ces installations techniques. Alors peut-être pour débuter, j'avais juste une petite blague du coup. Comme ça, vous me laisserez du temps après la suite, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé une petite blague qui me parlait bien, et puis je me suis dit, bah tiens, c'est bien, parce que j'aime bien être vigilant sur mon temps, et je sais que parfois j'ai tendance un peu à dépasser. C'est l'histoire d'un jeune pasteur stagiaire qui va trouver un pasteur plus âgé, qui a de l'expérience, et puis il lui dit, ah, j'ai vraiment besoin de tes conseils pour faire un bon message. Comment on fait un bon message? C'est quoi les clés? Et le pasteur plus âgé lui dit, bon, un bon message, ça débute d'abord par une bonne introduction, et surtout, il faut que tu soignes aussi ta conclusion. Et le jeune pasteur lui dit, mais il y a autre chose. Et le pasteur plus ancien lui dit, mais surtout, tu fais attention à une chose, c'est qu'il faut que ton introduction soit le plus proche possible de ta conclusion. Donc j'espère que j'arriverai à timer ce matin de manière à pas trop déborder. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Merci Nathanaël. Ce matin, je ne sais pas comment vous vivez les choses en ce moment, mais j'avais à cœur un petit peu de vous interroger sur ce qu'on vit en ce moment, pas juste dans Betsalel, mais de manière générale dans le monde où on vit. Est-ce que vous êtes interrogé un petit peu sur le moment clé qu'on est en train de vivre, au-delà du confinement, mais par rapport à ce qui se poursuit avec la Covid-19? Pour ma part, moi, je ne sais pas où on se situe dans le plan de Dieu. Je sais que ça lui appartient et je ne m'inquiète pas de ça. Par contre, ce que je constate ces derniers temps, au travers de mes lectures, de ce que j'ai écouté, de ce que je vois, c'est qu'il y a comme un appel, un défi à vivre une forme de rafraîchissement sur ce qui fait sens dans notre relation au Père. C'est comme si en ce moment, Dieu était en train de nous dire « Je vous ai tout donné, et maintenant qu'est-ce que vous en faites ?» Et peut-être vous l'avez remarqué dans les partages qu'on a faits, même au travers de la notion des dons, de messages même qui ont été faits les semaines précédentes, je trouve qu'il y a cette notion-là qui est présente. J'ai relu 2 Chroniques 7,14, notamment, qui dit ceci, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Et j'ai repris aussi ce que disait Jean 14, 12 à 18, où Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit des vérités, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. À vous, pardon. Et je pense que ces deux passages sont assez significatifs par rapport au temps qu'on vit, et c'est un petit peu mon introduction de ce que je vais partager avec vous. Je crois qu'on a un appel profond en ce moment en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'aussi corps de Christ, en tant qu'Église, à reprendre conscience de la force que nous avons en lui. Et j'aimerais partager vraiment ce matin avec vous sur la pertinence qu'on est appelé à avoir dans les temps actuels, en tant que fils et filles, mais aussi en tant que membres du corps de Christ, donc en tant qu'Église. J'ai intitulé ce message « Transformé pour refléter la réalité du ciel ». Et j'aimerais commencer avec vous ce partage par rapport au mandat que Christ nous a donné ici-bas. Le premier mandat qu'on peut trouver, c'est Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » J'aime bien cette autre traduction, que j'ai repris d'une traduction anglaise, en fait. Donc, je vous ai fait la traduction en français, mais les termes utilisés sont plus proches, finalement, du texte original. Donc, par-dessus tout, poursuivez constamment le domaine du royaume de Dieu et la justice qui en découle. Alors, toutes ces choses moins importantes vous seront données en abondance. On a ici un premier appel qui nous concerne tous à partir du moment où on est en Christ. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'aime ce qui est mis là parce que ce n'est pas juste un conseil, c'est mis à l'impératif. Et donc, ça veut dire que Christ, en nous disant ça, nous rend responsables, mais nous rend aussi collaborateurs avec lui. Dieu est suffisamment puissant, il aurait pu faire sans nous, mais il a choisi de collaborer avec nous. Et donc, on a un mandat sur le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous sera donné en plus. Ça veut dire qu'on est amené à devoir aussi, par moments, reconsidérer la manière dont on peut vivre avec Dieu dans notre relation de prière. Je ne sais pas pour vous, mais par moments, dans notre relation avec Dieu, peut-être vous n'avez jamais fait ça, mais vous arrivez devant Dieu avec votre petite liste. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants, fais que ma journée se passe bien, etc. Et ici, on voit une chose, c'est que tout nous sera donné en plus. Tout ce qu'on a besoin nous sera donné. Mais on est amené à d'abord rechercher le royaume. Ce qui veut dire à être en connexion avec le cœur du Père pour apprendre finalement à prier pas juste ce qui nous semblerait bon, mais apprendre à prier ce qui est sur le cœur de Dieu. Ce n'est pas forcément simple, mais ça s'apprend. On va évoluer un petit peu ensemble durant ces quelques minutes de partage et on y reviendra. Un autre mandat, et ça fera lien avec ce que Bruno pouvait nous dire, c'est celui dans Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde, quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. On est appelé à avoir cet impact en nous qui fasse qu'à un moment donné, même sans être dans une forme où on partage directement notre foi, les autres sont capables de voir qu'il y a quelque chose en nous, soit au travers de la saveur qu'on met, soit au travers de la lumière qui sort de nous. Et cette lumière, elle ne peut être en nous à un moment donné que si on est renouvelé profondément par l'Esprit. C'est un peu l'image que je partageais l'autre fois au petit groupe chez Nadège et Simon, de dire ben, on est un peu comme une lampe en fait. Et cette lampe, pour qu'elle s'allume, il faut de l'électricité, il faut une ampoule, et puis l'ampoule, il faut qu'elle soit sur un socle, avec les connexions. Et c'est comme si l'électricité, ça représentait le Saint-Esprit. À un moment donné, l'ampoule, c'est notre être intérieur, et puis le corps de la lampe, c'est notre corps. Si vous n'avez pas l'électricité, ou si vous n'avez pas le bon courant, qu'est-ce qui risque d'arriver? L'ampoule ne s'allumera pas, ou alors s'il y a un courant trop fort, l'ampoule va exploser, et derrière, la lampe n'aura aucune utilité. L'appel qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, au travers de ce que nous livrent ces deux passages, c'est d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu ici-bas. Et je reviens à ce que je partageais au tout début, chercher d'abord le royaume de Dieu et être sel et lumière, ça veut dire qu'à un moment donné dans notre vie, on est appelé à être ces ambassadeurs du royaume. Comme Christ l'a été ici-bas, et je le lisais en introduction, il nous a tout laissé, et il nous a appelés à faire des choses encore plus grandes que lui. Et si on constate aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans l'efficience qu'a eu Jésus sur quelques années de ministère. Si on regarde l'efficience qu'il a eue sur quelques années de ministère, mais c'est incroyable. 3 ans. Et quand on lit juste dans les passages, et encore il est dit à un moment donné qu'il a fait beaucoup d'autres choses et qu'il faudrait de nombreux livres pour raconter tout ce qu'il a fait. Je pense que Jésus était vraiment un maître de l'optimisation du temps, ici-bas. Et être ambassadeur, ça veut dire à un moment donné qu'on embrasse, qu'on saisit notre identité céleste. Et je ferai du lien avec ce que Bruno avait partagé sur les dons. Manifester notre identité céleste, ça passe par le fait de porter les fruits de l'esprit et de les manifester. Et ça s'allie dans l'équilibre avec le fait de vivre une vie de l'esprit manifestée et démontrée par la puissance de Dieu vécue chaque jour et incarnée en nous. Et je vous renvoie à 1 Corinthiens 12 et 14 qui avait été partagé par Bruno. Et la recette, entre guillemets, pour ça, ce n'est pas juste quelque chose qui se fait de manière magique, mais ça passe avant tout par un renouvellement de notre esprit. Si on veut, à un moment donné, porter un bon fruit, avoir une autre forme de comportement, être cette lumière, ça passe par le renouvellement complet de notre esprit. Et comme je commençais à le dire à un moment donné au début, ça passe aussi par le fait qu'on soit pleinement connecté à l'Esprit du Père. Et à partir de là, notre vie sera transformée. Ça implique donc de découvrir qui je suis, quelle est mon identité dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi. Parce que plus on comprend Jésus, plus on a une grande révélation de nous-mêmes. Jésus a été le modèle parfait, il nous a tout laissé. Et donc ça veut dire derrière qu'on a énormément à apprendre de lui. Et nos vies vont se transformer dans la mesure où notre esprit se renouvelle. Et comme je le disais au départ, c'est notre responsabilité. On a la responsabilité d'entendre Dieu et de répondre, parce qu'on n'est pas des marionnettes entre ses mains, il ne vient pas nous imposer les choses. Et entendre Dieu, si vous êtes là ce matin et que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous l'avez tous fait à un moment donné. J'entends parfois des chrétiens qui se disent « Ah ouais, mais moi j'entends pas Dieu comme tu l'entends ». Je pense qu'on se tire un peu une balle dans le pied quand on dit ça, parce que de toute façon, vous avez déjà au moins entendu une fois Dieu. Le jour où vous lui avez donné votre vie, ça veut dire que vous avez une conviction qu'il était votre Seigneur, votre Sauveur, qui était mort à la croix pour vous. Ça veut dire qu'il vous a parlé, peut-être de façon très claire, par une image, par quelqu'un qui parlait à ce moment-là, mais Dieu vous a parlé à ce moment-là. Et donc, on est tous capables d'entendre Dieu. Peut-être que vous êtes en chemin et que vous ne l'entendez pas autant que d'autres, mais vous entendez Dieu. Et quand on est dans cette responsabilisation de l'entendre, derrière, à partir du moment où il y a cet élan d'un nouvel esprit, d'un nouveau comportement et d'une vie transformée, Dieu répond, comme il le dit dans les passages que j'ai pu partager depuis le départ. Je reviens sur la notion du sel, et ça va faire le lien avec notre notion de vie de corps, de vie d'église, si ça veut bien. Alors Nat, je vais te demander de passer, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est bloqué. Merci, tu peux avancer encore. Notre appel en tant qu'enfant de Dieu, il se manifeste derrière par le fait d'appartenir au corps. À partir du moment où on donne sa vie à Christ, on est rattaché au corps de Christ et à tous ceux qui font partie de ce corps, à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et ça fait ce qu'on appelle, ce qui est intitulé dans la Bible, l'Église. L'Église, elle fait partie du royaume, mais le royaume à lui seul ne représente pas l'Église. Dieu travaille aussi avec ceux qui ne sont pas encore avec lui. Je témoignais à une de mes collègues récemment. Elle n'est pas engagée avec le Seigneur. Et Dieu l'a utilisé à un moment particulier de ma vie où elle a donné une parole. Et je lui ai témoigné l'autre fois. Je lui ai dit, tu sais, ce jour-là, tu ne le sais pas, mais tu as été conduit par Dieu à pouvoir me parler. Parce que j'avais une décision à prendre et elle m'a appelé pour me guider dans ma décision sans savoir que j'étais en train de devoir prendre cette décision. Et aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'elle m'a dit il y a 4 ans en arrière, ce que je vis dans mon travail, tout ça. Et c'était chouette parce que du coup, je lui ai témoigné, puis comme elle est questionnée tout ça en ce moment, j'ai remis une petite couche derrière pour l'expliquer. Souvent, nous, on voit l'Église un petit peu comme ce schéma. On est le sel de la terre et du coup, c'est comme si on mettait le sel complet, on versait la salière complètement au bord de l'assiette. On aime bien être ensemble, le petit tas là, non vous n'êtes pas un tas, vous êtes des belles personnes, mais on est au bord de cette assiette et finalement on n'est pas en train d'assaisonner à la juste mesure le plat. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un plat où il y a eu la salière qui est tombée dessus, c'est immangeable. D'ailleurs le sel a aussi une fonction physiologique qui participent à notre équilibre organique. Et à un moment donné, quand il n'y en a pas assez ou quand il y en a trop, notre corps défaille. C'est pour ça que l'image, elle est très belle que Jésus prend sur le fait de nous dire qu'on est le sel de la terre. On a un appel en tant que communauté, en tant que corps. On peut passer ? Merci. À pouvoir s'aimer les uns les autres à l'image de Christ, comme c'est dit dans Jean 15, 12, à s'occuper des veuves et des orphelins, comme c'est dit dans Jacques 1, 27, à porter les fardeaux les uns des autres, ça c'est dans Galates, et puis la mission, entre guillemets, ultime, elle nous est donnée au moment où Jésus repart auprès de son Père dans Matthieu 28, verset 19, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ça, c'est la mission qu'on a, à la fois individuellement, mais à la fois en tant que corps. Je lisais un livre où un pasteur qui s'appelle Francis Chan, qui a écrit là récemment un livre qui s'appelle « Lettre à l'Église », et qui est un peu une interrogation, c'est sorti avant le confinement, mais c'est, je trouve, très adapté au temps actuel qu'on est en train de vivre. Il disait, j'interroge souvent des pasteurs sur qu'est-ce qui fait un peu une bonne église pour eux. Et puis bah, les réponses, c'est des cultes vivants, plein de personnes, voilà, des rassemblements réguliers. Or, si on regarde dans la parole, ce qui fait l'église en tant que telle, c'est ce que je viens de vous dire. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur cette notion de corps, en regardant ce que Jésus a dit en parlant à un des premiers moments sur la notion d'église, c'est quand il s'adresse à Pierre. C'est Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, verset 15, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur terre sera délié dans les cieux. » Je vais m'arrêter un petit peu sur ce passage qui, par moments, quand on lit, est compris comme le fait que Pierre est le socle de l'Église. C'est aussi ce qui a été compris par l'Église catholique, en général. Et en fait, quand on creuse les textes originaux, moi j'aime bien faire ça, alors je ne parle pas du tout grec, hébreu ou araméen, mais il y a des petits outils qui permettent de regarder ça. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand Jésus s'adresse à Pierre, quand il lui dit « tu es Pierre », le terme qu'il utilise, c'est « petit rocher »,« petit caillou ». Et en fait, quand il dit « sur cette pierre, je bâtirai mon église », le deuxième pierre, ça veut dire « roc », rocher, mais beaucoup plus gros. « Je bâtirai mon église », le terme qui est employé n'est pas du tout « église » au départ, c'est le terme grec « ecclésia ». Et quand on lit ce passage, finalement, en fait, si on le reprend dans le contexte où il était, la deuxième fois où Jésus dit « sur cette pierre », il ne parle pas de pierre en soi, il parle de lui-même, de Jésus. Ce qui nous confirme bien ce que je partageais avant, de dire bah, « Jésus, en tant que tel, est le socle de l'Église ». Et « Église », je vous disais, c'est pris avec le terme « ecclésia ». Alors, je vous fais un petit peu de culture générale. Mais « ecclésia », Jésus a utilisé un terme à ce moment-là qui était commun à l'époque. Ecclésia, ça ne voulait pas dire rassemblement de chrétiens du tout. C'était rassemblement, pas forcément grand, ça pouvait même juste être deux, trois personnes, dépendantes d'un gouvernement. Donc sous-entendu, si deux Romains se rassemblaient pour faire un commerce et qu'ils, à un moment donné, discutaient sur ce qui se vit dans la vie politique romaine, ils étaient une ecclésia. L'idée de cette ecclésia, c'est de ce rassemblement de deux, trois personnes pour représenter le gouvernement ou échanger sur ce qui se vivait, être dans la cité, c'était lié à la vie publique de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus utilise ce terme ici. Il y a une particularité de la vie de Jésus, c'est qu'il est venu briser toutes les frontières qui existaient lors de sa vie ici-bas. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu le voile rompu dans le temple au moment de sa mort. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé auprès des personnes qui étaient les moins considérées à l'époque. Il a brisé toutes les frontières. Et quand il parle du coup de cette notion d'ecclésia, ce n'est pas juste sur la notion d'un rassemblement comme on peut le vivre ce matin. C'est également sur le fait de vivre l'Église déjà dans la vie de tous les jours, dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail, de dire qu'à un moment donné, à deux ou trois, on peut vivre l'Ecclésia. Et la vie de l'Église, ça doit amener à ce qu'on voit à la fin. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, Jésus nous rappelle notre mandat et le mandat qu'il a rappelé aussi de dire qu'à un moment donné, on est appelé à faire ce qu'il a fait ici-bas et à même aller au-delà. Et qu'on a accès à la puissance de Dieu. Dieu a choisi de collaborer avec nous. Du coup, l'Église, ça ne se résume pas juste à un rassemblement de personnes le dimanche, juste à une dénomination, juste à un bâtiment. Ça va bien plus loin que ça. On va lire dans Matthieu 18, versets 19 et 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça veut dire qu'on est appelé, si on fait le lien avec ce que je partageais précédemment, à pouvoir avoir cette vie, à un moment donné, à deux, à trois, peut-être un peu plus, mais pour impacter notre environnement avec les valeurs du royaume de Dieu. Et ça, on peut le vivre dans notre vie publique, dans notre vie familiale, bien sûr en rassemblement communautaire comme on le vit là, mais ce qu'on vit ensemble, finalement, il y a comme une complémentarité à pouvoir vivre les deux. Notre appel en tant qu'Église Ecclésia d'un point de vue communautaire, il est important. Ça construit l'identité, ce qu'on vit ce matin ensemble ou ce qu'on vit dans nos réunions. Ça permet aussi de vivre le sens et la force prophétique à un moment donné. De pouvoir édifier, encourager, à travers aussi du partage de la parole, comme on est en train de le vivre maintenant. Et on est appelé à vivre dans nos rassemblements la réalité du ciel ici-bas. Si vous lisez dans Matthieu 6, verset 10, c'est la prière du Notre Père, mais il est bien dit dès le début de cette prière que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus nous enseigne à prier ça. Ça veut dire qu'on a une responsabilité pour qu'à un moment donné, les valeurs du ciel soient vécues ici-bas. On est collaborateur avec lui dans ça. Je pense qu'on a, à un moment donné, quand on se retrouve à deux, aussi cette intention de collaborer. Et c'est là d'où vient cette force, au-delà du fait d'un moment donné prendre position seul. On a le droit, et bien sûr, on est encouragé à vivre cette relation de prière avec notre Père. Mais vivre à deux ou trois cette relation, ça veut dire qu'on autorise aussi, à un moment donné, le Seigneur à pouvoir pleinement accomplir ses desseins ici-bas. C'est comme si on concluait tous ensemble une forme d'accord qui a un appui supplémentaire et de dire qu'on a cette alliance avec lui, qu'on veut vivre et demeurer dans sa présence, et qu'on est aussi en train d'être à l'écoute, pas juste de nos objectifs à nous, mais des objectifs qu'il a. À un moment donné, quand on apprend à venir à Dieu en lui disant « Ok Père, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que je prie là, maintenant ?» Il y a une mesure de présence et de puissance supplémentaire qui se vit au-delà juste du fait de dire « Seigneur, je viens devant toi et j'ai besoin de ça, 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 ça. » Parce qu'à un moment donné, comme c'est dit, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, donc Père, qu'est-ce que tu veux pour maintenant? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Le reste vous sera donné, parce qu'il connaît nos besoins dans les plus petits détails. On peut prier comme un serviteur de Dieu, c'est un peu le fait de faire sa liste, mais à un moment donné, on est des fils et des filles du roi. Et donc on est appelé à rentrer dans cette dimension de vie de fils et filles du roi, et donc à chercher à vivre sa présence permanente. On est d'abord invité à prier sur ce qui est sur l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a sur son esprit ? Lui connaît le reste de ce dont j'ai besoin. Et on est créé pour avoir cette relation. Je l'avais déjà partagé dans des messages plus anciens. Dès le départ, Dieu a voulu cette relation qui passe par la prière. Une chose aussi, par moments on se dit « ouais, Dieu ne répond pas à tout ça », mais on est créé pour que les prières se réalisent. Mais pas au départ les prières de ma liste uniquement, mais les prières qui sont sur le cœur de Dieu. Et du coup, ces prières qui sont sur son cœur vont aller au-delà de moi. Elles vont concerner mon entourage, elles vont concerner mon quartier, ma ville, ma cité. Le « aller » est fait des disciples. Souvent, on a regardé le « aller ». Mais quand on regarde le texte original, le « aller », ce n'est pas le verbe d'action. Le verbe d'action, c'est le « faire des disciples ». Le « aller », quand on s'intéresse au vocabulaire de l'époque, c'est plutôt la notion de cheminement, de progression. Alors bien sûr, il y a des appels, il y a des personnes qui ont des appels pour être missionnaires, évangélistes, tout ça, mais il y a une notion où Dieu considère l'appel qu'on a aussi et de dire, mais le faire des disciples, c'est progressivement. Et donc ça démarre par mon cercle d'ecclésia le plus proche. Mon époux, mon épouse, mes enfants, mes collègues au travail. Et comme on en parlait avec le sel et la lumière, ça veut dire un moment de pouvoir, au lieu de renverser la salière sur tout le plat, ou d'être avec le sel que d'un côté du plat rassemblé entre nous, accepter que le sel soit mis à la juste mesure dans les endroits où il y en a besoin, où on exerce. On sait que du sel bien dosé, ça rehausse tout un plat et ça donne un goût extraordinaire. Même chose quand Jésus parle du fait d'être lumière, il va jusqu'à dire d'être une lumière comme dans la ville en fait, de manière à pouvoir montrer, à attirer le regard au loin. Et je pense qu'en tant qu'Église, dans ce qu'on est en train de vivre là, Dieu est en train de nous permettre, et nous a permis aussi au travers du confinement, de redécouvrir ce que ça voulait dire vivre Ecclésia. On s'est retrouvé automatiquement bloqué à 2, 3, voire plus pour les familles. Et Dieu n'est pas du tout contre le fait qu'on vive la communauté. Hein. N'allez pas dire que j'ai dit ça, ce n'est pas du tout ce que je veux préciser. Et je pense en plus que dans ce qu'on est en train de vivre dans l'Église en ce moment, c'est la semaine de reprise des petits groupes. Donc je trouvais que ça faisait aussi un bon lien par rapport à la thématique que j'avais sur le cœur. Je veux vraiment vous encourager à pouvoir être des représentants du gouvernement de Dieu ici-bas. Parce que c'est ce que chacun de vous est appelé à être. Si on avait une conscience accrue de ce que ça signifie la présence de Dieu, quels sont ses objectifs et quelle réalité ça veut dire, je pense qu'on vivrait tous vraiment différemment. Et Dieu a extrêmement de bonté et d'amour dans ça, parce que c'est quelque chose vers lequel il nous amène quand on commence à chercher son cœur. J'ai pris une position moi, avec un ami dans la prière depuis un an. Alors on prie ensemble depuis ça fait déjà plus de 2 ans où on prie régulièrement ensemble. Et il y a un an, on a pris une position particulière où on a dans notre forme de prière, on a dit à un moment donné, on ne veut pas juste te présenter ce qu'on a, on veut trouver pleinement ton cœur et ce que tu as sur ton cœur. Et je peux vous dire que depuis un an, toutes les semaines, je vis des choses où à un moment donné, ça dépasse mon entendement. J'en témoignais un peu, l'autre fois, je vois Maria qui fait un signe de tête, mais on en parlait au petit groupe. Et il m'arrive du coup, le matin, quand j'ai prié avec lui, puis on avait eu deux personnes à cœur comme ça, et on prie pour ces personnes. Je rentre chez moi, le midi, je prends un temps de jeûne et de prière également pour continuer à prier. Et dans l'après-midi, de manière, mais que je ne pouvais pas, moi, maîtriser ou coordonner, j'ai rencontré une des personnes et l'autre personne m'a envoyé un message. Elle ne savait pas du tout que j'avais prié pour elle. Même chose. L'autre fois, j'ai prié par rapport à mon travail et j'ai eu à cœur qu'on ait un temps d'échange avec mes collègues les plus proches sur ce qui faisait notre valeur les uns pour les autres. Et souvent, on aime bien dire à ses collègues « Ouais, t'es sympa, je t'aime bien », mais aller profondément sur ce qui fait notre valeur au regard les uns des autres, c'est souvent plus compliqué parce que ça vient toucher des choses plus profondes. Et on a vécu ce moment-là et ça a été l'occasion pour deux de mes collègues qui ne sont pas croyantes d'entendre qu'à un moment donné, elles nous ont fait le retour à... On est trois à être croyants dans mon bureau, donc c'est un avantage aussi, mais elles nous ont fait le retour en tant que non engagées avec le Seigneur de la manière dont notre foi impactait leur vie. Et il y a un des retours que j'ai trouvé très touchant, c'est une des collègues qui m'a dit ça, elle me dit « J'ai déjà rencontré des personnes qui sont chrétiennes et certaines par moments m'ont voulu m'imposer leur foi. » Elle dit « Toi, tu ne m'as jamais imposé ta foi, tu vis et quand j'ai besoin, tu m'en parles, mais tu n'as jamais cherché à m'imposer les choses. » Et je pense que voilà, vivre ce sel un petit peu qui se répand correctement, c'est vivre ça. Pour terminer, je veux vous encourager à avoir cet appel à vivre l'Ecclésia, là où vous vivez, là où vous exercez, et que ça puisse nous donner, quand on est ensemble comme ça, dans des temps de culte, de réunion de prière, de vivre encore plus intensément la présence de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste au travers de ce qu'on vivra le dimanche que ça peut s'enclencher. C'est au départ par une transformation dans nos propres vies, dans nos vies de famille, dans nos entourages, et on est amené à amener cette transformation au-delà de nos lieux de vie, vers nos cités aussi, vers nos villes. On a un appel à amener vraiment l'ADN du royaume de Dieu ici-bas, comme je l'ai partagé dans Matthieu 16 et 18. Je terminerai en priant. Père, on veut vraiment te remercier parce que ton plan est parfait, parce que tu as décidé dès le départ d'être en relation et en collaboration avec nous. Notre aspiration, Père, c'est vraiment de pouvoir découvrir encore plus ta présence. Seigneur, nous voulons apprendre de ce qui est sur ton cœur, nous voulons apprendre de tes pensées. On veut voir ta présence manifeste, demeurante, être là avec puissance, Seigneur, dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, de famille, dans nos travails, Seigneur. Et que ça puisse rejaillir sur ce qu'on vit en communauté, ici ensemble, et que ça ait un impact au-delà de ce qu'on peut imaginer sur cette ville, sur cette métropole. Père, je te prie pour tous ceux qui sont en train de chercher en toi leur identité profonde. Merci de les mener à ton cœur. Merci de parler à tous ceux qui ici pensent qu'ils sont éloignés de toi, qu'ils ne t'entendent pas. Je te prie pour que dans les jours qui viennent, on puisse vraiment entendre ta voix et chercher ce qui est sur ton cœur, Père. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta capacité à nous faire progresser et grandir avec patience. Père, on veut vraiment te louer pour ta grandeur et ta bonté envers nous. Amen.